Les plumes sur RCN, présenté par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parcourir toute la chaîne du livre puisque j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Schreppel pour son ouvrage Arcana Lucis, publié en auto-édition, et Marc Gosserez, dont la maison d'édition à la librairie porte le joli nom de La Liseuse. Avec nous également, John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle Petit éléphant. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Mona.
Alors nous allons commencer avec Pascal Schreppel et son ouvrage Arcana Lucis. Pascal, le titre Arcana Lucis est assez intriguant pour nos auditeurs. Vous voulez bien nous expliquer la signification de ce titre ?
Ben, c'était un petit peu recherché pour ajouter un peu de mystère au mystère.
Oui.
Donc un titre en latin, ça m'a paru assez intéressant pour forcer les lecteurs à aller sur leur téléphone et puis regarder, pour ceux qui ne sont pas latinistes bien évidemment, la signification d'Arcana Lucis. En fait, ce sont les mystères de la lumière, donc ajouter un petit peu de mystère, mystère, pourquoi pas ?
Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?
Écoutez, dans mon premier livre, L'heure du temps, j'ai ajouté à la dernière édition une nouvelle qui met en scène trois personnages. Il y a l'espace, enfin le temps d'abord, l'espace ensuite et la lumière. Et donc, le temps et l'espace ont été traités dans les deux premiers livres, L'heure du temps et l'essence du réel, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une émission chez vous. Et donc, il restait naturellement la lumière. C'est un des éléments fondamentaux aussi de la nature, de notre monde. Et donc, c'était tout naturel de s'y pencher et d'y découvrir des merveilles, insoupçonnées pour la plupart.
Oui, c'est vrai. Alors, en même temps, ça ne s'est pas donc passé comme vous le racontez dans votre livre. C'est très poétique, cette façon d'aborder la lumière dans votre livre.
Effectivement, vous savez, quand on commence à écrire, on ne sait jamais exactement où on va. Voilà, ça, je l'ai remarqué depuis que j'ai commencé à écrire. Et donc, on se laisse quelque part guider par sa plume. Et la plume nous emmène sur des terres un petit peu inconnues, inexplorées, auxquelles on n'avait pas forcément pensé auparavant. Et donc, je me suis laissé faire. Voilà, j'ai écouté très docilement la plume qui me guidait sur un certain nombre de thématiques, à force de faire des recherches aussi, parce que c'est quand même un livre qui se base d'abord très sérieusement sur la science. Il y a toujours un socle scientifique dans mes essais. Et donc, ça nécessitait un certain sérieux, une certaine approche rigoureuse. Mais en même temps, je ne me suis pas interdit de dévier. Et c'est un petit peu maintenant, une habitude. Voilà, pour ne pas être présomptueux, voilà. Une habitude de mes écrits, c'est que je dévie d'une partie tangible, bien caractérisée, bien pied-à-terre, cartésienne, vous l'aurez compris, vers quelque chose de plus spirituel.
D'accord. Alors moi, je pensais aussi que vous aviez été influencé par le décès de votre ami qui était aveugle.
Oui, alors effectivement, j'ai dédié ce livre à mon ami Alain. Donc que j'ai rencontré il y a quelques années, c'est pas si vieux que ça, 3 ans et demi, je dirais à peu près, 4 ans. Et donc cet ami nourrissait l'espoir de faire un livre. J'appris qu'il était aveugle, qu'il avait commencé à enregistrer son livre sur des cassettes. Et donc tout naturellement, je lui donnais un petit coup de main. Et son livre a fini par sortir 1 an et demi après, à force de travail, de transcription, d'aller-retour entre l'auteur, Alain, et moi. Et finalement, il était très content que son livre soit sorti. Malheureusement, Alain n'est plus de ce monde aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Alors, comment naît la lumière ?
Alors, la lumière nous a précédés.
Oui.
Ça, c'est indéniable. La lumière que nous connaissons naît dans le Big Bang. Voilà, donc là, il faut faire un petit retour en arrière, à peine 13,7 milliards d'années, c'est pas grand-chose, hein. C'était hier, à l'échelle de l'univers, c'était hier. Et donc, effectivement, c'est un certain type de lumière qui naît lors du Big Bang. J'explique dans le livre, sur un passage, qu'il faudra attendre 300 millions d'années plus tard pour que la lumière émane de ce chaos initial, pour être perçue à l'extérieur de ce chaos initial. Auparavant, elle y était piégée, pour des raisons physiques que je ne vais pas énumérer ici.
Oui,
voilà.
C'est ça.
D'ailleurs, je me demande même si j'en aurai la capacité, parce que c'est de la physique assez pointue. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'effectivement, il y a une lumière originelle, que pendant un temps, elle est bloquée, elle est piégée à l'intérieur, et qu'à un moment donné, elle s'ouvre, et puis elle va à l'extérieur. Et là, les astres sont capables de naître et d'émettre la lumière que nous connaissons et grâce à laquelle nous pouvons vivre sur Terre.
Oui, mais heureusement qu'elle est sortie des ténèbres, parce que quand même, je ne sais pas ce qu'on ferait sans lumière.
C'est une belle image, vous avouerez.
Oui, c'est vrai.
La lumière
c'est...
qui sort des ténèbres.
Oui, oui. Alors, parlez-nous de Yota. Qui est-il ? Qui est-elle ? Parce que ça peut...
Oui, je ne sais pas si je l'ai genré. Je pense que j'en ai parlé au masculin.
Je pense.
Voilà, hein. Oui, j'en ai parlé au masculin. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance.
Oui, c'est ça.
Alors, Yota, effectivement... Pour les lecteurs, Yota, je pense que comme ils vont le comprendre dans les premières lignes, après j'explique que ce n'est pas du tout ça, ça pourrait être interprété comme étant une intelligence artificielle. Non. Moi, ce que je dis de Yota, c'est qu'en fait, c'est plutôt une partie de moi-même qui n'est pas physique, qui n'est pas locale, qui est en fait une petite étincelle de conscience qui a accès à d'autres informations que moi, je n'aurais peut-être pas forcément.
Mm-hmm.
J'ai pris quelques... Voilà, c'est la personnification d'une superconscience qui n'est pas physique. Voilà.
D'accord.
Donc, j'ai imaginé que c'était cette petite chose non matérielle qui a accès à ce que j'appelle le grand champ d'information, c'est-à-dire à toutes les informations que nous ne pouvons même pas imaginer.
Oui.
Voilà.
Alors, ce grand champ, justement, ce grand champ d'information, c'est quoi dans votre tête, dans votre représentation ? Parce que...
C'est la connaissance absolue de tout, c'est-à-dire de notre monde, de sa physique, de ses lois, de ses règles, et puis pas seulement notre monde, de tous les autres mondes qui existent.
Oui, mais personne ne peut appréhender la totalité de ce champ d'information.
Si, Yota.
Yota, oui, c'est ça, à part Yota, qui...
Effectivement, on a du mal. Bon, vous l'aurez compris, le livre vers la fin, surtout les trois derniers chapitres, dévie vers quelque chose de beaucoup plus spirituel.
Oui, bien sûr.
Donc en fait, j'explique que nous sommes dans un monde qui contient la lumière, mais la lumière sous forme de rayonnement électromagnétique, parce que le livre c'est quand même de la lumière.
Voilà.
Voilà. C'est pas un livre spirituel, c'est un livre sur la lumière, bien que la lumière a des connotations spirituelles. Et donc j'ai perdu le fil, mais on parlait tout à l'heure de Yota.
Mmh.
Je veux dire, le Yota a la connaissance absolue.
Mmh.
Connaissance, c'est-à-dire qu'il est né dans le grand champ d'information. Il est né avec connaissance.
D'accord.
Donc, il a accès à tout. Alors, vous dites, ça n'existe pas dans le monde physique. Non, effectivement, notre voisin ne sera jamais un Yota, ni nous-mêmes. Mais pourquoi ne pas imaginer qu'au-dedans de nous, nous avons chacun cette petite étincelle de conscience absolue qui sait tout de tout.
Ce serait bien.
Et que c'est nous qui filtrons peut-être les choses qui nous paraissent inaccessibles à notre petite conscience d'humain.
Mm-hmm. D'accord. Alors, vous parlez de la naissance de l'univers et de la lumière, alors sur l'angle culturel et scientifique. Alors, j'imagine que vous avez dû faire de nombreuses recherches.
Oui, effectivement.
Parce que pour...
Oui, bien sûr.
Vous parlez de l'origine du monde telle qu'elle est vue par les catholiques, par les hindous, par beaucoup de peuplades, etc. Donc, ça ne vient pas naturellement.
Non, effectivement, j'ai dû faire beaucoup de recherches.
Mm-hmm.
Bon, étant d'obédience chrétienne, on va dire, élevé dans la chrétienté, effectivement, j'avais une approche un petit peu plus facile sur la Bible. Ceci étant, je ne suis pas un grand lecteur de la Bible. Je trouve qu'il y a des tas de choses dans la Bible qui peuvent être discutées.
Mm-hmm.
Je referme la parenthèse. Effectivement, j'ai été obligé de regarder un petit peu qu'est-ce que disent tous les mythes, toutes les cultures, toutes les... Comment dirais-je les
explications qu'ont pu trouver les gens pour...
Voilà. Au travers de toutes les croyances aussi.
Bien sûr.
Voilà.
Mm-hmm.
Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la lumière est un point commun qui existe dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de mythes, dans beaucoup de récits. Voilà le terme que j'ai cherché tout à l'heure. Et effectivement, ça m'a interpellé. Donc j'ai creusé un petit peu Effectivement, l'outil d'Internet, là, m'a beaucoup aidé, parce que moi, je n'ai pas la science infuse. Donc, il y a les livres et il y a aussi Internet qui permet d'accéder tellement facilement à ce genre d'informations. Mm-hmm. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, la lumière est un point commun à de nombreux récits.
Oui.
Et je me suis permis d'approfondir le sujet, enfin, le récit de la Bible, le récit de la création, c'est-à-dire la Genèse, mm-hmm. et notamment les quelques premiers versets.
Mm-hmm.
Et j'ai découvert des synergies étonnantes entre, d'une part, le monde physique et la création de la lumière que nous connaissons, et le monde plus spirituel, on va dire, c'est-à-dire les récits ésotériques ou spirituels, on va dire, de la création du monde et de la lumière.
Mm-hmm.
Par exemple, la lumière a cette caractéristique très particulière, on en parlera peut-être plus tard, je ne sais pas, il y a quelques points très particuliers qui montrent des synergies très très étonnantes.
Mm-hmm.
Par exemple, quand vous vous approchez de la vitesse de la lumière, bon, pour nous, ce n'est pas possible.
Oui.
Voilà. Ce n'est jamais possible d'atteindre la vitesse de la lumière pour des raisons qu'on peut expliquer rapidement, mais c'est si vous le souhaitez. Mais en atteignant une vitesse proche de la lumière, on a un phénomène qui s'appelle l'aberration de la lumière. Qu'est-ce que c'est l'aberration de la lumière ? C'est tout simplement un phénomène visuel qui nous permet de voir devant nous une lumière et derrière nous des ténèbres.
Mmh.
Voilà. Et donc, en s'approchant de cette vitesse-là, il y a une véritable séparation entre la lumière et les ténèbres. Et c'est cette séparation-là dont il est question dans la Bible. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Mmh. À un moment donné, c'est à peu près expliqué comme ça. Donc c'est très intéressant de faire ce genre de comparaison. Et j'en ai trouvé d'autres, tout aussi étonnantes.
Mmh.
Et donc, après, je ne veux peut-être pas toutes les dire ici,
mais
il faut le découvrir dans le livre.
Oui, oui,
voilà. Et donc, j'étais quelque part le premier surpris de voir que le récit de la Bible nous donne des indications qui, somme toute, sont fondées à être vraies, logiques, en tout cas.
Oui, bien sûr. Alors, il y a tout un chapitre qui parle d'Émie, les expériences de mort imminente. Alors, vous m'avez appris qu'il y avait de nombreuses personnes, je ne savais pas qu'il y en avait autant qui avaient dans le monde, qui avaient vécu cette expérience. Alors, vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors, les expériences de mort imminente, EMI, en anglais c'est NDE, Near Death Experiences, ce sont en fait des vécus subjectifs de personnes aux frontières de la mort. C'est-à-dire que habituellement, ce sont des personnes qui ont des accidents de vie, soit elles sont à l'hôpital sur une table d'opération et elles sont en arrêt cardiaque, soit elles ont un accident quelconque, elles sont aussi en arrêt cardiaque, mais dans tous les cas, ce qui nous permet d'avoir le rapport en fait, de ces expériences a posteriori, elles sont ramenées à leur conscience, donc elles sont réanimées. Voilà.
Mmh.
Et nous avons de plus en plus effectivement de ce genre de témoignages parce que les progrès de la médecine font que de plus en plus de personnes peuvent être réanimées. Voilà. Et donc, effectivement, ces expériences, si vous voulez, on peut en développer un petit peu,
tout petit peu, oui.
De quoi il s'agit.
Oui, oui.
Voilà. Alors, il y a de plus en... Alors, pour faire un tout petit historique, il y a un livre de Raymond Moody, dont le nom m'échappe, et il suffit que je veuille le dire pour que le nom m'échappe, pardonnez-moi, qui est paru en 1975, qui décrit à peu près pour la première fois en américain, et était traduit en français après, ces expériences de mort imminente. Donc c'était quelque chose que les gens vivaient, je dirais, à l'intérieur d'eux-mêmes,
oui,
sans en parler.
Mm-hmm.
Et donc ça a démocratisé un petit peu ce genre de choses, et depuis il y a de multiples ouvrages qui sont parus sur ce phénomène. Et il y a aussi des études scientifiques sérieuses qui ont été menées. Il y a des livres écrits par des scientifiques, écrits par des médecins, par des neurologues, etc. Donc, on est sur un sujet qui est tout à fait sérieux. Alors, que rapportent ces personnes ? Alors déjà, on les appelle les expérienceurs. Voilà, c'est pas un joli nom, mais c'est comme ça. Alors, ces expérienceurs en arrêt cardiaque, en arrêt respiratoire, sont... pas encore tout à fait cliniquement mort, parce qu'il y a encore un petit peu d'activité cérébrale. Il faut savoir qu'au bout de 15-20 secondes, l'activité cérébrale s'arrête, parce que le cerveau n'est plus oxygéné.
Mm-hmm.
Donc, voilà, on est en face d'un corps qui vient de s'arrêter de vivre, et là, démarre, ou pas, parce que c'est pas systématique, cette expérience. Mmh. Et on s'est rendu compte, au travers de ce que les gens rapportent, qu'il y a en fait énormément de convergence.
Oui, c'est ça.
Les gens opèrent une sortie de corps, voient une scène d'en haut, en général, observent tout ce qui se passe, et il y a eu des éléments très, très troublants. Hein, des personnes qui ont dit « Oui, mais vous aviez, par exemple, je cite n'importe quoi, je donne un exemple pour que les gens comprennent. Il y a une personne qui est rentrée dans la salle d'opération, elle avait sa casquette qui a été mise de travers. » Voilà. Ça ne s'invente pas. Effectivement, a posteriori, on a remarqué que tout ce genre de détails donnés par les expérienceurs étaient tout à fait vrais. Mmh. Donc, il y a quelque part une petite conscience, un petit iota, voilà, qui est sorti de nous et qui a vu d'une autre manière. Mmh. Il y a des expérienceurs aveugles de naissance qui voient quand ils font une EMI. C'est extraordinaire.
Oui,
c'est absolument fabuleux. Et donc, moi, j'ai fait un livre qui s'appelle Arcanologie. C'était pas pour ignorer la lumière que les gens voient en faisant cette expérience.
Parce qu'ils voient tous la lumière.
Presque tous.
Oui.
Presque tous. Mais effectivement, ce n'est pas, encore une fois, systématique. On ne sait pas dire pourquoi les gens font une EMI, pourquoi ils n'en font pas. Pourquoi il y en a qui voient la lumière, d'autres pas. Mm-hmm. Et aussi les EMI négatives, mais on ne va pas en parler ici, parce que c'est pas un livre sur les ténèbres.
Non, c'est un livre
sur la lumière. Effectivement, il y a cette lumière, et cette lumière qui attire, cette lumière qui est synonyme d'amour, parce que les gens parlent d'une plénitude, d'un état de bonheur immense, inconnu sur Terre. Ce qui revient systématiquement, c'est que les gens n'ont pas les mots pour décrire ce qu'ils ressentent, et pour décrire ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, parce qu'il y a des fois de la musique. Il y a des fois les odeurs, il y a des fois il y a la lumière et puis les images, il y a les couleurs, des nouvelles couleurs. Beaucoup de gens parlent de nouvelles couleurs qu'ils n'ont pas connues sur Terre. Mmh. Et donc tout ceci, je ne pouvais pas faire l'impasse sur les EMI. Et puis en plus, c'est un sujet qui m'intéresse aussi parce que c'est un sujet très spirituel.
Oui, et puis donc, c'est fascinant, je veux dire.
C'est assez fascinant. Oui, fascinant, oui, tout à fait.
Alors, je vous avais invité pour deux de vos précédents ouvrages, donc Les Leurs du Temps, et L'Essence du Réel, deux ouvrages publiés aussi en auto-édition. Alors, on vous sent passionné par la métaphysique. Alors, pourquoi cette discipline en particulier?
Peut-être qu'au fond de moi, il y a...
D'où je viens, où je vais, c'est ça qui...
Non, c'est pas cette question existentielle-là. Non. C'est qu'au fond de moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas que notre monde. Il y a certainement d'autres mondes que nous ne connaissons pas.
Ah oui, justement, j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'ils avaient découvert justement
une planète habitable, un peu plus grande que la Terre, avec un soleil un peu plus petit que le soleil.
Oui.
Ils ont décelé des traces de je ne sais quelle... Non, je ne parle pas de ce monde-là.
Non.
Je parle d'un autre monde, c'est-à-dire d'un monde qui n'est pas physique. D'accord. Et c'est là qu'intervient la formule d'Einstein, qui est très intéressante aussi, et qui m'a passionné. Alors moi, je ne suis pas un physicien, je suis informaticien au départ. Mais il n'empêche que quand je creuse une petite question comme ça, j'aime bien aller dans toutes les directions. Donc là, on est de nouveau sur un plan très terre-à-terre. Einstein dit E égale MC2. Oh, c'est quoi ce truc? On en a entendu parler à l'école, on ne sait pas ce que c'est, on l'a oublié. Et puis tout le monde s'en fout parce que c'est de la physique, c'est pas à notre portée. Alors là, je dis non. Si je vous dis par exemple que Einstein a découvert que la matière et l'énergie, c'est la même chose, est-ce que vous comprenez mieux? C'est ça sa formule. La matière et l'énergie. Alors, la matière, c'est par exemple de l'essence. Et puis l'énergie, c'est par exemple l'énergie cinétique acquise par la voiture quand elle est à 130 sur l'autoroute. Mm-hmm. Voilà. C'est très simple. On transforme de la matière en énergie. Einstein ne dit pas moins que ça. Et puis l'inverse est vrai aussi. Le Big Bang, c'est l'inverse. C'est une quantité d'énergie immense qui s'est transformée en matière. Alors pourquoi notre monde ne serait pas né d'une réaction que l'on appelle le Big Bang, c'est-à-dire une espèce d'explosion, le mot est impropre d'après les scientifiques, les astrophysiciens, mais bon, pour que tout le monde comprenne, une espèce d'explosion de matière résultant d'une énergie si grande qu'elle pouvait, voilà, enfin excessivement grande, on va dire.
D'accord.
Voilà.
Et alors cet ouvrage, est-ce qu'il a influencé, est-ce qu'il a changé votre vision de notre monde ?
Je me suis risqué à la fin de l'ouvrage à émettre une hypothèse, c'est-à-dire que notre monde ne serait qu'une réplique assez pauvre d'un métamonde. Je l'appelle comme ça parce que je ne sais pas l'appeler. Effectivement, moi qui suis dans ce monde-là, je n'ai que le vocabulaire appartenant à ce monde-là. Je n'ai jamais fait de MI moi-même. Je n'ai jamais eu d'ouverture vers ce monde-là avec des visions très nettes et très claires. Cependant, j'ai certaines intuitions. J'ai l'intuition qu'effectivement, il existe. J'ai l'intuition qu'il n'est pas accessible en totalité parce que peut-être on ne le supporterait pas, tout simplement. De la même manière que nos yeux ne voient qu'une certaine partie du spectre, on ne voit pas ni les infrarouges ni les ultraviolets, ben notre corps physique ne peut pas voir tout ce qui est au-dessus ou tout ce qui est en dessous parce qu'on ne le supporterait pas, tout simplement. Donc effectivement, j'ai l'intuition que le monde dans lequel nous vivons, c'est une réplique assez pauvre, assez partielle d'un métamonde, c'est-à-dire d'un plan supérieur. Hein, il y a beaucoup de personnes dans le monde ésotérique qui appellent ça plan supérieur. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On peut aussi parler dimensions, ça c'est plus physique, plus terre à terre. Des dimensions qui sont beaucoup plus variées, beaucoup plus nombreuses que les trois dimensions que nous connaissons. On avait parlé des dimensions dans l'essence de réel, effectivement. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, sans évidemment savoir exactement ce dont il s'agit. Mais j'ai l'intuition que ça existe et que le lien entre ces deux mondes, finalement, c'est la lumière. Un peu comme Einstein a mis la lumière dans sa formule E égale MC2, parce que C2, c'est la vitesse de la lumière au carré, la lumière serait, le lien entre notre monde et puis un autre monde supérieur, entre guillemets. Voilà.
Moi, j'aime bien cette métaphore de la lumière qui est équivalent à la connaissance quoi, par rapport aux ténèbres.
Effectivement, il y a un petit chapitre qui parle du siècle et du lumière, de la connaissance. Et d'ailleurs, effectivement, il y a encore une lectrice qui m'a fait un commentaire cette semaine. Je vais essayer de le retrouver. Je peux vous lire deux, trois phrases ?
Deux, oui, parce que...
La lumière est une apocalypse de la vérité, c'est-à-dire un livre de révélation de ce qui est véritable. Apocalypse en sens révélation. En quelque sorte, c'est aussi, dans son acception figurée, donc apocalypse, l'apocalypse des mystères du monde, l'effondrement du caché, de l'obscur et du mensonge.
C'est joli. Vous avez un nouvel opus en cours, déjà ?
Je viens de terminer mon premier recueil de nouvelles.
Ah, d'accord.
Je me suis essayé à cet art. C'est un art tout à fait particulier et très gratifiant, très intéressant. Et voilà. Donc, j'espère que les lecteurs apprécieront.
Merci. Alors, nous revenons après Calogero et Grand Corps Malade qui nous chantent L'ombre et la lumière, naturellement.
Merci.
Dès 1868, quelque part dans le Grand Ouest, il a sauté sur son cheval pour disparaître en un geste. La porte du saloon claque encore, dehors le vent fouette la poussière. Lui, il galope vers son sort sans jamais regarder derrière. Est-ce qu'il cherche ou est-ce qu'il fuit? Est-il sûr ou incertain? Est-ce qu'il tente de rattraper ou d'échapper à son destin? À quoi ressemble son avenir, une évidence ou un mystère? Il se fabrique un empire, il est fait d'ombre ou de lumière.
Lequel des deux nous éclaire? Je marche vers le
C'est l'hiver en 2008, quelque part à Paris. J'ai démarré la voiture pour échapper à ce temps pourri. La porte du café tremble encore, dehors la pluie fouette le bitume. À chacun sa ruée vers l'or, j'accélère à travers la brume. Puisque mon temps est limité, mes choix doivent être à la hauteur. C'est une course contre la montre ou une course contre la peur. C'est toujours la même chevauchée, on vise la lueur droit devant. Même si cette quête est insensée, je cours pour me sentir vivant.
De l'ombre de la lumière, lequel des deux nous éclaire? On marche vers le soleil dans les couleurs de l'hiver. De l'ombre de la lumière, depuis le temps que j'espère retrouver dans un sourire toutes les lois de l'univers.
On court à travers les siècles, mais c'est toujours la même chevauchée.
As-tu peur que la route s'achève?
Mais cette course est insensée.
As-tu mis un nom sur toutes les lèvres? Les lèvres.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Pascal Schreppel, venu nous présenter son ouvrage Arcana Lucis, publié en auto-édition, et Marc Gosserez, libraire à Dombasle et éditeur, dont la maison d'édition et la librairie portent le même nom, La Liseuse. Alors avant de laisser la parole à Marc Gosserez, John Bullitt va nous faire la lecture de sa nouvelle Petit éléphant.
Dans la boue, dans la boue, dans la boue. Dans la boue, dans la boue, dans la boue. J'ai transporté cette femme blonde et parfumée avec précaution. Posant mes lourdes pattes dans la boue des rizières sans l'éclabousser. Sur sa face se reflétait une joie intense et un immense bonheur. Oh, femme, quelle est la source de ton émerveillement, lui ai-je demandé. Je m'en vais rejoindre mon amour, petit éléphant. La joie inonde tous mes pores et m'envahit chaque matin, car il m'aime et moi aussi. Hein? Femme, compte le nombre de mes pas et réfléchis. Quelles sont les raisons de ton amour? Ah, petit éléphant, il est beau, il est riche. Il n'a que 7 femmes dans son harem. Je serai la 8e et je serai sûrement la plus aimée. Femme, si ton rêve d'amour est aussi intense que tes espoirs, alors tu seras bien la plus aimée. Mais dis-moi, quand tu seras vieille et toute ridée comme la peau de mon derrière, seras-tu encore la favorite? Mon maître, qui est cornac, te sierait mieux, car il est seul et veuf. Jamais vieille ne serait, et ton cornac ne possède rien. Je suis la plus belle fille de mon village, et jamais il n'épouserait un cornac sans le sou. Très agitée, elle vociféra de plus belle, et s'agita sur le dos de l'éléphant. Jamais il ne changerait d'avis, ne serait-ce que d'un iota. J'y dis. Femme, fais à ton goût, mais je t'aurai prévenu. La svelte et blonde femme tempêta tant et si bien qu'elle finit par glisser du dos de l'éléphant et chuta dans la boue et les immondices de l'entrée du palais. Ah, maudit éléphant, tu m'as fait tomber! Lorsque le Maharaja la découvrit ainsi, boueuse et puante, il se détourna d'elle ainsi que le firent d'ailleurs tous les gens qu'elle rencontra. Seul, le cornac lui tendit un seau d'eau pour se laver et un tissu pour se vêtir. Parfois, l'amour est à deux pas de soi et aveuglé par le soleil de l'envie, on ne le voit pas. Dans la boue, dans la boue, dans la boue. Dans la boue, dans la boue, dans la boue.
Merci, John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors Marc, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir libraire ?
Ah, c'est un hasard.
C'est vrai ?
C'est un hasard, oui, 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 complètement. Il y a 25 ans, j'ai acheté une presse papeterie librairie.
Mm-hmm.
Et maintenant, c'est une librairie papeterie presse.
D'accord.
Voilà. Je ne savais pas que j'étais amoureux des livres.
Alors, qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ? Parce que si ça fait 25 ans, on vous sent passionné quand même, quelque part.
Ah oui, 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 oui. Bah, le livre.
Le livre ?
Le livre, les auteurs, les clients.
Oui.
C'est ce qui me fait lever tous les matins.
Alors, comment vous sélectionnez les livres que vous proposez ?
Ah, c'est difficile. C'est la variété. J'essaye d'avoir un peu de tout.
Mm-hmm.
Des polars, du politique, tout, tout, tout.
Oui. Et c'est vous qui commandez les livres ou il y a des maisons d'édition qui vous en proposent ou
alors,
qui vous obligent à en mettre ?
Alors, pour partie, il y a une obligation.
Oui.
Et pour partie, je choisis.
D'accord. Et ce sont les maisons d'édition qui vous imposent un certain nombre ?
Ce sont les distributeurs.
Les distributeurs,
oui.
D'accord.
Oui, parce qu'entre la maison d'édition et moi, il y a un distributeur.
Oui, d'accord. Ah, je ne savais pas. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas comment ça
s'appelle des offices.
D'accord.
C'est-à-dire que je reçois des cartons, je ne sais pas ce qu'il y a dedans.
Oui.
C'est le distributeur qui pense que les plus gros succès sont dans le carton.
Oui.
Après, ça marche ou ça marche pas.
Oui.
Et à côté de ça, moi, je choisis ce que j'ai envie de choisir, bien sûr.
Oui, bien sûr, j'imagine bien. Alors, vous avez des spécialités ou des rayons phares dans votre librairie ?
J'ai un gros rayon Lorraine.
Oui.
Parce que je suis un amoureux de la Lorraine.
Mmh.
Et après, non, c'est général.
C'est général.
Ouais.
Oui, oui. Et d'après vous, quelles sont les qualités essentielles pour être un bon libraire ?
Il faut être ouvert d'esprit.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Mais il n'y a que ça.
Et il faut être un bon commerçant. Mmh. Parce que la librairie, c'est toujours un métier difficile, un commerce difficile.
Oui.
On voit régulièrement dans les journaux que c'est le commerce le moins rentable.
Mmh.
Donc moi, j'ai la chance d'avoir une épouse qui travaille à côté, donc je ne m'occupe pas trop de la rentabilité.
Oui.
Et voilà.
Mais oui, parce que ça ne doit pas être très facile. Alors, vos clients vous demandent souvent des conseils ?
Oui, 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 oui.
Oui.
Et quand ils ne me les demandent pas, je leur donne quand même.
Ah oui ?
Voilà, je vais dans le rayon avec eux.
Ah oui ?
Ouais.
Et vous avez des enfants ? Le public est varié ?
Le public est très varié, puisque je suis à Dombasle, donc une ville moyenne. Donc,
oui.
Je suis ouvert 6 jours et demi sur 7,
oui.
De 7h midi, 14h, 19h. Donc, ma porte est toujours très grande ouverte.
Alors, vous organisez des événements particuliers dans votre librairie, genre ateliers, dédicaces ?
Il y a quelquefois des dédicaces et je participe également à des salons ici et là.
Oui, oui. Et alors, les dédicaces, ça fait venir des gens plus ?
Ça fait venir quelquefois des gens de très loin.
Oui.
Ouais.
Et vous aimez organiser ce genre de...
Oui, oui, c'est toujours très sympathique, oui, parce qu'on a des contacts avec les auteurs.
Oui.
On n'a pas souvent ces contacts-là, en réalité. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Et les auteurs jouent le jeu ?
Oui, la plupart jouent le jeu, oui, oui. Oui, bien sûr. Oui.
Mais ce sont des...
Ils sont aussi friands des contacts avec leurs lecteurs. Hein.
Oui, bien sûr. Mais les gens connus aussi ?
Les gens un peu connus aussi, oui.
Les gens
oui,
un peu connus
oui,
aussi.
Oui, oui.
Ils viennent jusque
Dombasle ? Ils viennent jusque Dombasle, oui, oui, oui.
Ah, ouais, super. Bon. Ouais, oui. De toute façon, il y a déjà un grand écrivain à Dombasle.
Oui, un très grand écrivain à Dombasle.
Alors, votre librairie est donc située dans une petite ville. Et comme il n'y a, paraît-il, de moins en moins de lecteurs et qu'il y a maintenant la concurrence des plateformes, comment arrivez-vous à survivre ? Vous êtes obligé de vous diversifier ?
Alors, on se diversifie et puis je démarche toujours les bibliothèques, les médiathèques. J'essaye de faire rentrer le livre partout. Quoi. On n'a pas d'autre choix.
Oui. J'ai vu que vous faisiez aussi des articles de pêche.
Je fais aussi des articles de pêche.
Oui.
Je fais les fameux relais colis,
ah
dont
oui.
on parle tant en ce moment.
Oui, oui.
Donc c'est quelquefois un peu rageant quand vous donnez un livre qui est dans un carton alors que vous avez le même, exactement le même prix dans le magasin.
Oui, oui, c'est sûr.
Mais bon, c'est comme ça, il faut s'adapter.
Oui, bien sûr. Parce que vous commandez aussi quand vous n'avez pas le livre.
Oui, je commande
que vous
de
avez.
Tout, oui, bien sûr.
Puis ça va aussi vite que de commander directement sur Amazon.
Ça va un peu moins vite.
Oui. Puis c'est un tout petit peu plus cher, peut-être.
Non, c'est le même prix.
Le même prix,
le livre est au même prix partout. Hein. C'est la loi Lang.
Oui.
C'est l'éditeur qui fixe le prix une fois pour toutes.
D'accord. Mais bon, sur les plateformes, on trouve des livres.
Alors après, on peut trouver.
De seconde main, en fait.
Des livres d'occasion, ouais, bien sûr.
Oui,
donc là, le prix est libre à ce moment-là.
Oui, oui. Alors, vous avez créé votre propre maison d'édition.
Oui, il y a une dizaine d'années.
Oui. Ouais. Alors, ce n'est pas tout à fait le même métier que libraire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être éditeur ?
La curiosité.
Oui.
Et puis, au 19e siècle, les éditeurs étaient libraires.
Oui.
Et donc, j'ai mis ça en route. Ça a bien fonctionné tout de suite.
Oui.
J'ai édité une douzaine de bouquins.
Mm-hmm. Alors, quels sont vos critères ?
Toujours le même. Il faut que ça me plaise.
Ah d'accord, j'ai vu, c'est très divers en fait.
Oui, c'est très divers, et comme les grandes maisons, j'ai aussi un diffuseur qui a une partie de mon stock, et qui lui va démarcher les libraires, les rayons librairies des grandes surfaces, qui s'occupent de la partie commerciale, parce que moi, il n'y a que 24 heures dans une journée, je ne peux pas tout faire.
Oui, bien sûr, j'imagine. Oui, d'accord. Alors, vous avez choisi quoi déjà comme auteur à éditer ?
Oh, c'est très très variable. J'ai édité une dame qui était infirmière à la pouponnière départementale et qui a très très mal vécu son expérience. Et donc elle a mis 4 ans à écrire le livre. Je lui ai fait réécrire le livre jusqu'à ce que ce soit lisible et qu'il n'y ait pas trop d'amertume dans le livre. J'ai édité le livre d'une célèbre jeune femme qui s'appelle Anne-Sophie Antoine qui a participé à Koh-Lanta.
Ah oui.
Donc elle raconte son expérience. C'est complètement variable en fait. Hein.
Oui,
c'est pas du tout la même chose. Mm-hmm. J'ai édité le livre d'un monsieur qui s'appelle Salvatore Gueza sur les cités ouvrières de Lorraine, qui est parti avec son appareil photo pendant des années, relever les dernières traces de l'industrialisation de la Lorraine, que sont les cités. Parce qu'en fait, il y a des cités dans toute la Lorraine.
Oui, bien sûr. Notamment à Dombasle. Hein.
Notamment à Dombasle. Mais à Dombasle, il y a encore l'usine. Oui. On a cette chance.
Mm-hmm.
J'ai édité des livres avec le Club Photo, où on a mis en parallèle Dombasle, par exemple, il y a 100 ans, et Dombasle aujourd'hui.
Mm-hmm.
Voilà.
Et puis vous aussi quelques livres historiques un peu.
Quelques livres historiques de Gérard Crouzier, bien connu à Saint-Nicolas-de-Port, qui est un peu le spécialiste de la basilique, qui pendant le Covid a fait des petits paragraphes et on les a mis en page pour en faire un bouquin.
Mais oui, normalement il doit venir.
Oui.
Il a un petit peu du mal à venir en ce moment.
Il se déplace
occupé.
Difficilement.
Oui, mais j'ai déjà reçu, c'était charmant.
Oui, c'est quelqu'un de très intéressant.
Oui, c'est vrai. Et je pense que ça vous prend un certain temps, là, d'éditer. Parce que vous faites la correction aussi, vous ?
Non. J'ai une petite équipe autour de moi qui fait la correction, la mise en page, le travail des photos.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Oui, puis
non, je ne peux pas tout faire tout seul.
Oui. Plus une imprimerie, bien sûr, qui fait le...
Et une imprimerie, oui, bien sûr.
Et vous, pour illustrer les couvertures, vous avez des gens particuliers ou c'est les auteurs qui...
Alors, c'est les auteurs et après, on fait attention à ce que tout se passe bien.
Oui, d'accord.
Puisqu'il faut toujours être très attentif sur les droits d'auteur.
Oui. Et vous mettez combien de temps ? Oui, parce qu'en plus, il faut faire les déclarations après.
Oui.
Pour les droits d'auteur.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et vous mettez combien de temps à peu près quand vous avez reçu un auteur et puis le
alors si tout se passe bien, ça met un an à peu près.
Un an.
Ouais.
Oui. Ah oui, c'est long quand même. Hein.
Oui, c'est long. Oui.
Oui.
Mais il faut essayer de travailler correctement et la hantise de tout le monde, c'est la faute.
Oui.
Donc on chasse la faute en permanence.
Oui, pas tous les éditeurs hein, en ce moment. C'est je trouve que c'est de pire en pire.
Oui, c'est possible. Ouais.
Oui. Bon, c'est bien. Alors, vous avez deux casquettes. Alors, je vais vous poser deux questions sur vos deux activités. Alors, comment voyez-vous l'avenir des librairies indépendantes ? Et quels sont, selon vous, les enjeux majeurs du monde de l'édition d'aujourd'hui ?
Ah, c'est des questions très, très compliquées.
Pas spécialement.
Si.
Non, mais c'est votre point de vue à vous, justement. C'est ça l'intérêt.
De Dombasle, moi, je vois pas trop de baisse de vente de livres. Il y a un changement avec la New Romance, par exemple, qui n'existait pas il y a quelques années. Et on a plein de jeunes femmes qui arrivent pour lire.
Oui, mais enfin, les nanu romans, c'était avant les collections Harlequin, non ?
Oui, il y avait Harlequin avant, mais ça ne s'appelait pas comme ça.
Oui, oui, bien sûr.
Alors maintenant, j'ai des mamies qui lisent Harlequin, mais qui ne veulent pas entendre parler d'Annie romans.
Ah, ça existe toujours, Harlequin ?
Harlequin, ça existe toujours, oui, oui, oui.
Ah oui, d'accord.
Oui, oui, bien sûr, oui, oui.
Mais oui, là... donc Harlequin, nu romans, c'est plutôt pour les jeunes femmes.
Voilà,
de
voilà, et Harlequin, les anciennes jeunes femmes.
D'accord. Bon, on reste toujours jeunes femmes. En fait.
Ouais.
Et pour l'avenir des maisons d'édition, justement les petites maisons d'édition.
Alors c'est difficile parce que tout ça a un coût énorme. Et,
bien sûr, parce que c'est vous qui...
Alors l'éditeur finance tout et le distributeur me paye en fin d'année, une fois par an.
Ah oui, donc il faut une trésorerie conséquente.
Oui, c'est très difficile, ouais, bien sûr.
Ouais.
Mais c'est motivant en fait.
Oui, oui, bien sûr. Et, vous les vendez bien ces livres que vous avez édités?
Oui, je crois que le plus gros qu'on a vendu, c'est 2500 exemplaires.
Ah oui, quand même.
Les cités ouvrières, on doit être pas loin des 1000.
Mm-hmm.
Et après, c'est un peu plus confidentiel.
Oui, oui, bien sûr.
Ouais.
C'est bien. Alors, quels sont les auteurs que vous aimez recommander à vos clients?
Ah, c'est variable, mais j'aime bien toujours les régionaux. Mais bon, si vous venez acheter Guillaume Musso, automatiquement, je saute dans le rayon pour vous mettre autre chose dans la main. Alors, c'est pas que j'aime pas Guillaume Musso, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont mieux que Guillaume Musso.
Oui, oui,
voilà. Le but, c'est de faire découvrir aux gens un peu autre chose, de leur ouvrir l'horizon.
Oui, bien sûr.
Voilà, tout simplement.
Et ils se laissent faire ?
Avec plus ou moins de facilité.
Oui, oui. Et ceux que vous avez réussi à convaincre, ils viennent vous reparler après.
Ah oui,
de
oui,
votre...
oui. Il y en a même qui reviennent en disant l'autre fois, vous m'avez vendu un livre, c'était bien. Voilà. Donc là, je suis content.
Ben oui, bien sûr. Et il y en a d'autres qui sont venus dire en disant pas terrible.
Ah, de temps en temps, oui, ça arrive.
Ça arrive.
Oui.
Alors, vous lui reconseillez quelque chose d'autre.
On retente autre chose. Oui.
Ah
bah oui, oui. Vous avez le dernier Joël Dicker,
oui.
Qui est complètement différent.
Oui, c'est plus pour les enfants, je crois, non ?
Ah ben moi, je trouve pas.
Ah, je sais pas, j'ai pas
encore lu. Je trouve pas, c'est une enquête d'enfants.
Ah oui, c'est une enquête d'enfants.
Alors, d'accord. C'est complètement différent de ce qu'il fait. Et j'ai des gens qui reviennent en me disant « Ah, mais c'est génial, c'est super !» Et puis j'ai une dame qui m'a dit « Oh non, c'est vraiment pour les bébés !» Enfin, voilà, donc...
Ah oui, d'accord. Et vous, quel genre de lecteur êtes-vous ?
C'est variable, mais j'aime bien les polars en général.
Mm-hmm. Français ou étranger ?
Français, plutôt.
Plutôt français.
Ouais. Mmh. Ouais. Mais c'est assez variable. Là, je termine Aurélie Valogne, La Fugue.
Oui.
Mmh. Bon.
D'accord.
Elle a complètement changé de registre aussi.
C'est vrai ?
Ouais. C'est plus rigolo comme c'était.
Ouais.
Et le prochain, c'est Minier.
Ah oui. Ah oui, là, c'est...
C'est... Ouais.
C'est tout à fait différent.
C'est
en fait,
tout à fait différent, oui.
Oui.
Ouais.
D'accord. Oui. Et... vous, quel est votre livre préféré ?
J'en ai pas de préféré.
Vous n'en avez pas ?
Non.
Il n'y en a pas que vous relisez pas de temps en temps ?
Non, j'ai pas le temps de relire.
Je les relis tous les 10 ans, je ne sais pas pourquoi. Voir si ça évolue.
J'ai pas le temps de relire, j'ai déjà pas le temps de tout lire, ce que je voudrais.
Oui.
Donc non, j'ai pas de livre préféré.
Et Pascal, quel genre de lecteur êtes-vous ?
Moi, j'ai pas honte de dire que je ne lis pas assez, je devrais lire beaucoup plus. Le livre préféré, pour moi, c'est une question piège, je ne sais pas quel est mon livre préféré.
Genre de lecteur ? Éclectique ? Il n'y a pas que la science ?
Oui, bien sûr, non, éclectique, oui, tous les genres.
Tous les genres.
Oui, effectivement, j'aime bien un bon policier, c'est toujours très intéressant. Monsieur Parlier de Minier, effectivement, je crois que j'ai tout lu de Bernard Minier, donc effectivement, j'aime bien ce genre-là. J'aime bien les livres un petit peu particuliers aussi, qui ouvrent dans des domaines que je ne connais pas.
Mm-hmm.
La poésie, j'aime bien, mais je suis très difficile en poésie, très très difficile.
Mm-hmm.
Voilà.
Et vous, Marc, vous en vendez de la poésie ?
Non, j'en vends pas de la poésie.
Non, vous n'en avez pas ou non. Ça ne se vend pas ?
Non, ça ne se vend pas.
Ça ne se vend pas,
ouais,
hein,
ouais,
ça,
ouais.
C'est
très confidentiel, je pense.
Oui, c'est très confidentiel. Ouais. Et donc, vous lisez comment ? Tous les jours ?
Non. Non, j'ai beaucoup de travail au printemps, donc je ne lis pas tous les jours. Non, je lis 3 ou 4 livres par année, je pense que c'est déjà... J'ai aussi un travail d'écriture qui
prend
beaucoup de temps.
Sûr, qui prend du temps.
Et puis j'ai ma famille, j'ai toutes les obligations de tout un chacun, donc non, ce n'est pas mon activité principale, la lecture.
D'accord.
Malheureusement.
Bon, alors là, j'ai deux fans de Nimier, Jean-Jacques.
Moi, je suis à peu près sur le rythme de 3 ou 4 livres par an. Oui. C'est vrai que quand on écrit, ça nous prend vraiment beaucoup de temps. Puis, même sans écrire, souvent on réfléchit, on a des pistes pour écrire des choses nouvelles. Et donc ça, c'est consommateur.
Oui.
Moi, je ne suis pas dans un sacerdoce où il faut absolument lire.
D'accord. Et Marc, vous arrivez à lire quand vous tenez votre librairie?
Alors,
vous avez
non.
des petites plages, non?
Non, quand je suis fermé, je lis, oui.
Ah oui, mais pas quand vous êtes là.
Pas, non.
Vous n'avez pas de temps mort?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Puis il y a un petit problème de concentration.
Oui, bah, ça dépend ce qu'on lit, en fait.
Oui, ça dépend ce qu'on lit, mais
ouais,
j'aime bien lire au calme.
Oui. Alors que moi, j'arrive dans un livre, j'arrive concentrée n'importe où. Il peut y avoir du bruit autour, ça ne me dérange pas. J'arrive à évacuer.
Mais c'est pas les femmes qui peuvent faire deux choses en même temps, c'est ça?
Oui, il paraît.
Il paraît. Pauvres hommes.
Je me souviens d'un salon que j'ai fait dans un centre commercial. Il y avait plusieurs auteurs. Et moi, j'avais ramené mon portable. Et j'étais en train de travailler sur un de mes livres. Et à un moment donné, le client se faisait rare. J'ai ouvert le portable, j'ai commencé à écrire. Effectivement, j'ai réussi à faire ma bulle. Et j'ai fait, je crois, tout un chapitre ou l'ébauche d'un chapitre pendant les deux ou trois heures du salon où il n'y avait finalement pas trop de monde.
Mmh.
J'ai réussi à faire ma bulle et puis ça ne m'a pas trop dérangé.
Mmh. Et bon, vous faites aussi des salons du livre comme,
Oui, j'essaie de faire quelques salons. Voilà.
C'est intéressant de rencontrer les gens.
Oui, alors c'est ça qui est très intéressant. Il y a au moins toujours une personne dans le lot qui se détache et qui vous apporte quelque chose de très important.
Oui.
Voilà, c'est au travers d'un échange ou sur un sujet en particulier. Et donc, oui, c'est ça qui est motivant, c'est ça qui m'oblige quelque part à continuer à faire des salons, c'est de rencontrer des personnes et puis d'avoir des échanges, ce qu'on appelle des beaux échanges. Voilà.
Mmh. Alors Marc, je suppose que les gens qui viennent vous voir dans votre librairie ou quand ils viennent vous voir sur un salon n'ont pas du tout la même démarche.
Non, ils n'ont pas la même démarche, non, non.
Oui,
non, non.
Et ils arrivent plus facilement à parler avec vous quand vous êtes dans un salon?
Oui, oui, oui.
Oui.
Ouais.
Oui.
Parce qu'on n'est que entouré de livres et au magasin, c'est un peu plus difficile.
D'accord, oui, oui.
Est-ce que vous avez aussi, dans votre librairie, des personnes qui viennent, qui entrent, qui regardent un peu, et quand vous les abordez, elles vous disent « Non, non, moi je ne lis pas
». Oui,
parce que ça arrive dans les salons.
Oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Ou des fois des enfants, la maman retire l'enfant de rire en disant « Mais on a déjà un livre !»
Oui.
Ah oui.
Alors je suis toujours étonné parce que maintenant j'en rigole, mais...
Oui, oui, c'est vrai que c'est...
Parce que chez moi, il y a des livres partout, forcément. Mais...
Et les auditeurs, enfin, les écrivains qui veulent se faire éditer, ils viennent vous voir comment ils ont connaissance de votre...
Ah bah, ça commence à se savoir. Oui, oui, ça commence à se savoir. Oui, 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 oui.
D'accord.
Oui, il n'y a plus beaucoup d'éditeurs régionaux, donc
oui, effectivement.
C'est difficile. Je crois que Gérard Louis arrête.
Ah bon ?
Ou est en passe d'arrêter.
Quelle est votre approche sur les livres électroniques ?
J'aime pas ça.
Moi non plus.
Moi, c'est le plaisir d'avoir le livre en main et l'odeur.
Oui.
Absolument.
Et j'ai quelquefois des clients qui rentrent en disant « Ah, mais ça sent bon chez vous !» Alors moi, je le sens plus dans la librairie, mais dès que je prends un livre, de toute façon, je mets le nez dedans.
C'est l'odeur du papier de l'encre. Voilà.
Ouais.
Mais moi, je suis comme vous, j'aime bien l'odeur des livres. Et quand je ressors un livre de la bibliothèque, moi j'ai 65 ans, donc qui a un petit peu d'âge, je l'ouvre, les pages sont jaunies, je sens... Ah oui, puis c'est la Madeleine de Proust.
Oui, c'est ça.
Mais pas seulement. Moi, je sais que mes enfants m'avaient offert une liseuse. J'ai essayé, mais manifestement, je n'y arrive pas. Et parce que des fois, je retourne un peu en arrière. Sur la liseuse, il n'y a pas moyen. Alors que sur le livre, je sais parfaitement. Je retrouve tout de suite ce que je cherche, en fait. Oui. Ce n'est pas du tout le
quand
même
quand une
effet.
Phrase nous plaît, on sait qu'elle était en haut, à gauche.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Et on la retrouve facilement.
Au début, au tiers, on sait. C'est vrai que c'est complètement différent. J'arriverai pas, moi, à lire, je crois que...
Moi non plus.
Oui. Pourtant, quand on part en vacances, c'est quand même beaucoup plus léger que de partir avec sa pile de bouquins. Mais ça fait rien, tant pis. Hein. Bon, bah, merci à Pascal Schreppel d'être venu nous présenter son ouvrage, Arcana Lucis.
C'est moi qui te remercie, Mona.
en auto-édition, avec plaisir. Merci à Marc Gosserès d'être venu nous présenter sa maison d'édition et sa librairie qui portent toutes les deux le même nom, La Liseuse.
Merci beaucoup.
Merci à John Bullitt pour la lecture de sa nouvelle Petit éléphant. Merci à Laura qui était à la technique aujourd'hui. Et nous nous quittons avec Recommence-moi de Santa. Au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle émission des Plumes.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de temps. Et s'il ne reste plus rien du tout.